Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons cette semaine rendre encore un hommage à Claude Lacombe qui nous a quittés il y a quelques jours. Voilà, alors il a laissé bien sûr derrière lui une œuvre importante écrite seule ou en collaboration. Nous avons vu la semaine dernière Le Château de Salignac en Périgord qu'il a écrit, mais ma foi, tout seul. Il y a quelques années. Alors, on va voir cette fois le vrai visage de Jeanne Leroy qu'il a écrit avec Richard Borde, avec sur la couverture un encart où il y a marqué « Contre enquête ». Alors, ce livre a été édité par Laloz en 2010 et s'intitule, comme je viens de le dire, « Le vrai visage de Jeanne Leroy, contre enquête sur un écrivain républicain, anticlérical, libre penseur et franc-maçon de la Troisième République ». Et c'est lui qui a créé, alors entre parenthèses, le Bornat du Périgord. Il y a bien sûr une préface de Gérard Fayol, qui était à l'époque président de l'Institut Eugène Leroy, et un avant-propos intéressant de Catherine Pinsard, qui est arrière-petite-fille d'Eugène Leroy. Alors bien sûr, il y a la liste des ouvrages que tous deux ont écrits, et il y a donc la préface de Gérard Fayol. Alors voici le début. Encore un ouvrage sur Eugène Leroy, on croirait la cause entendue depuis longtemps. Pourtant, depuis un siècle, le courant continu est toujours renouvelé de recherches et de commentaires paraît décidément intarissable. Mieux, même depuis quelques années, se manifeste un véritable renouveau de la réflexion dont témoignent publications, articles et colloques. Et nous ne reparlerons pas des films et des feuilletons tirés de l'œuvre, ni des débats provoqués par cette percée dans le monde audiovisuel. Le monde de l'édition, quant à lui, reste toujours attentif à une œuvre régulièrement présentée à la vitrine des libraires. Et l'édition récente et nouvelle des études critiques sur le christianisme a prouvé que le sage de Montignac n'avait pas dit son dernier mot et pouvait encore faire parler de lui. Alors c'est aussi le cas avec les travaux de Richard Borde et Claude Lacombe, dernière étape pour le moment sur la piste Eugène Leroy. Ces deux chercheurs ont fait leurs preuves et ont eu le sentiment au lendemain du colloque d'Hautefort du 15 septembre 2007 à la rencontre d'Eugène Leroy au château d'Hautefort, colloque auquel ils ont participé et dont l'un d'eux, Claude Lacombe, a assuré la publication avec la Société d'art et d'histoire de Sarlat et du Périgord noir. Il fallait encore causer qu'il y avait des choses à découvrir, que les informations amassées devaient être revisitées, étoffées. Alors il y a une nouvelle lecture sur ces textes, des nouveaux témoignages, des nouveaux documents, y compris documents iconographiques dont une inédite et importante récolte orne le présent ouvrage. Alors cet ouvrage est orné bien sûr de beaucoup de photos, dont certaines, comme il est dit, qui sont inédites et très intéressantes. Alors, il y a bien sûr la quatrième de couverture, et en principe c'est toujours très intéressant. Voici ce qu'elle nous dit, qui se cache derrière ce visage à la barbe d'un patriarche. Les différents auteurs qui ont tenté de répondre à cette question ont été à divers degrés influencés par leur sensibilité philosophique, idéologique, politique ou religieuse, et ont souvent produit de savantes et subtiles exégèses qui auraient sans doute fait sourire le vieux sage de Montignac. Au terme de la contre-enquête menée par Richard Borde et Claude Lacombe, il apparaît évidemment que certains biographes ont fait fausse route et sur des interrogations et qu'ils ont cru pouvoir résoudre au moyen de l'interprétation psycho-biographique de l'œuvre de Jeanne Leroy. Il fallait donc une approche plus réaliste du sujet pour retrouver le vrai visage de Jeanne Leroy, revenir aux sources documentaires et contextuelles car en menant leur contre-enquête, les auteurs ont acquis la certitude que Jeanne Leroy a parfaitement bien maîtrisé de bout en bout sa vie et son œuvre. Une importante série de portraits photographiques, on en parlait à l'instant, de lui-même, de sa famille, pour la plupart inédits, vient et appuyer ce constat en montrant l'image d'un homme serein qui a assumé pleinement sa vie de famille, sa vie professionnelle, son désir d'écriture et ses convictions, et qui s'affirme comme un homme de la terre parfaitement dans ses sabots. Alors il y a, en quatrième de couverture, il y a bien sûr une notice sur les auteurs. Alors d'abord, Richard Borde a mené une carrière d'aluminium hospitalier tout en s'intéressant particulièrement à l'histoire du Périgord occitan. Il a ainsi publié en Périgord l'hérésie cathare, c'est publié par Fédérope Lydre en 1996, Cathare et Vaudois en Périgord, Quercy et Agenais. C'est édité par Lydre en 2005, et on lui doit l'introduction avec Jean Page et Guy Penaud, des études critiques sur le christianisme d'Eugène Leroy et la Loz en 2007. Alors bien sûr, il y a Claude Lacombe, dont nous saluons la mémoire, était professeur à faire à l'époque d'histoire de collège Yvon Delbonce à Montignac, au travers de près de 200 articles, il mène depuis 40 ans des recherches sur l'histoire et l'archéologie du Périgord. Il a aussi publié Faïencier et Faïence de Bergerac au XVIIIe siècle, c'est édité par Vézina en 1989, Jérôme de Périgueux, Chapelain du Cid, en Fallac 99, et il y aura une édition espagnole en 2000. Il a aussi participé à l'ouvrage collectif Châtaigne en Périgord, Fruit des temps et des hommes, la Loz, en 2008. Alors, on peut bien sûr se procurer, bien sûr, ces ouvrages. Alors, il y a, comme je le disais, il y a un avant-propos de Catherine Pinsard, qui est arrière-petite-fille d'Eugène Leroy. Voici ce qu'elle nous dit. Le transfert du monument consacré à Eugène Leroy et son inauguration place Léomagne à Montignac raviva en moi, arrière-arrière-petite-fille d'Eugène Leroy, des interrogations sur ce que fut cet homme dont le portrait en auguste vieillard barbu ornait le salon de ma grand-mère m'avait toujours attiré. Ces interrogations allaient trouver leur réponse grâce à la rencontre fortuite lors d'un séjour familial en Périgord de deux hommes passionnants et passionnés, Claude Lacombe et Richard Borde, qui travaillent depuis quelques années déjà sur une nouvelle biographie d'Eugène Leroy, biographie qui voit ici le jour. Avec cet ouvrage intitulé « Avec juste raison, le vrai visage d'Eugène Leroy », ainsi qu'à travers son œuvre, je l'ai relu avec un nouvel intérêt, je découvris un homme moderne ayant fait de ses idées un mode de vie. Démocrate, épris de liberté et de justice, il nous ramène à des valeurs essentielles telles que le respect, l'intégrité, l'égalité sociale et l'amour de la nature, valeurs de l'homme contemporain et pour beaucoup écarté aussi au travers de son œuvre. Eugène Leroy nous interroge encore aujourd'hui sur notre condition de vie. Pour certains, Eugène Leroy apparaîtra comme très rationnel et quelque peu moralisateur. Mais comme disait Prévert, quand la morale fout le camp, le fric lui court derrière. Et c'est une situation bien actuelle. Par ailleurs, la tradition périgourdine tient une place prépondérante dans l'œuvre d'Eugène Leroy, région de haute culture gastronomique et historique. Bien sûr, la gastronomie en Périgord est renommée. Alors, il y a un préambule. Alors, bien sûr, ce livre qui fait 325 pages, bien sûr, il est difficile à résumer, donc en peu de temps, et je vais bien sûr voir un peu ce que nous dit ce préambule, le vrai visage d'Eugène Leroy. Alors en 1957, lors du cinquantenaire de la mort de Leroy, Armand Gonte disait, fils spirituel des encyclopédistes du XVIIIe siècle, aujourd'hui Francis Lacoste, le voit dans la lignée de Balzac et Xavier Darcos, inscrit sur le plan intentionnel dans la lignée de Michelet, d'Hugo, de Zola, alors que sur le plan littéraire, ce serait plutôt dans celle de Rousseau. C'est également l'avis d'Yvon Delbosc, qui avait connu l'écrivain de Montignac, sur ses vieux jours. Alors là, je vous laisse approfondir tout cela. Alors, comme le soulignait Marguerite Vallette, alias Rachid, on a prétendu que les naturalistes n'ont pas donné ce qu'on attendait d'eux. C'est parce qu'on s'est obstiné à chercher où ils n'étaient pas. Et il y en a un en Périgord, un des meilleurs, des plus solides, se soucie-t-il d'une école, celui-là qui n'a de soucis d'autres distinctions, plus ou moins honorifiques. Alors bien sûr, cet article continue, et cet autre genre littéraire est étroitement lié, antérieur au naturalisme, apparu dans les années 1840, et continuant dans les années 1860. Alors bien sûr, il y a Georges Sand, Amar au diable, Victor Hugo, Les Misérables, et tente d'approcher au plus près les réalités socio-historiques. Les écrivains sont engagés, militants, prônent la solidarité des classes en commentant les préjugés et sont des piliers de la littérature populaire. Les romanciers du réel ne cessent de nous renvoyer à une histoire politique, sociale, autant que littéraire, écrit Jacques Dubois. Alors, c'est sur ça c'est tiré du préambule du vrai visage d'Eugène Leroy, de Richard Borde et Claude Lacombe. Alors, on peut continuer bien sûr cette lecture. Le but du président ouvrage n'est pas de produire une énième analyse littéraire, tâche que nous laissons spécialistes, mais de corriger certains errements historique. Les fragments de Jeanne de Roy a bien voulu nous laisser de sa propre histoire, sont tenus et donnent parfois lieu à de bien étranges interprétations dont on révélera quelques spécimens au long de cet essai. Alors, cet essai, bien sûr, comme je disais, est à trouver et à lire avec grand intérêt. On se gardera de souscrire sa réserve aux propos apologiques d'un Yvon Delbon sous peine de passer pour des hagiographes bêlants, mais on se gardera tout autant de tomber dans l'excès inverse sous peine de n'avoir compris ni l'état d'esprit des républicains radicaux de la Troisième République auxquels le roi se rattache, ni surtout la véritable nature de son engagement maçonnique en le considérant comme un petit bourgeois haineux, frustré, médiocre, sectaire qui n'éprouve que jalousie et fureur aveugle envers les nobles, les bourgeois et les prêtres. On reviendra longuement sur ses propos, mais on constatera que le premier temps, qu'il pose plus de questions qu'il n'apporte en réalité de réponses. Alors, je rappellerai que les parents d'Eugène de Roy étaient au service du comte de Damas à Hautefort. Alors, bien sûr, je ne vais pas tout lire ce préambule qui est quand même assez long, et je vous le laisse découvrir. Alors, il y a aussi un poème, ce qui est plus rare, pour le roi. Alors, le roi s'était engagé, et donc il a eu quelques petits problèmes avec l'armée, et il est bien sûr démobilisé. Alors, le roi est démobilisé le 8 mars, il a 35 ans, il reprend son poste de percepteur à Dôme le 9 mars, et le 28 juin, l'écho de la Dordogne mentionne par arrêté ministériel du 18 juin, monsieur le roi percepteur de Dôme, est nommé à la même qualité à Jumillac, dans cette petite bourgade du nord de la Dordogne, que Eugène fait la connaissance de Marie Peyronnet, qui va devenir la mère de son premier fils, puis son épouse. Et de cette rencontre, le roi a imaginé plus tard l'histoire de Lefranc et de Michelette. C'est possible, et ça changerait à l'ignorance dans laquelle nous sommes réellement concernant son séjour à Jumillac, comme Marcel Puy-Bonnieux et bien d'autres à la suite pensaient, Damas, c'est le roi. Marcel Seconda pense cette fois, sans hésitation et sans à peu près, Georges Lefranc, receveur d'enregistrement, c'est le percepteur Eugène Leroy. Alors, le roi quitte cette commune en janvier 1873 pour celle de Montignac, où il était nommé percepteur de troisième classe, et le 3 décembre 1872, et bien sûr, il est inhumé à Montignac. Alors, il y a un poème. La campagne électorale de 1873, les 5 milliards exigés par le traité de Francfort y a été réglé cette année-là, les derniers soldats prussiens quittent le territoire. Le roi exulte comme lui fait le vieux meunier du Frot, et il écrit un poème intitulé « Sonnet à la liberté » dont la teneur confirme son engagement républicain. Alors voici ce poème. Toi dont le regard lui d'une auguste fierté, et dont le bras armé de l'immortel pique, à la face des rois fonda la République, mère des vieux héros, salut, ô liberté, le lourd bonnet phrygien sur ton front indompté, rappelle à tes enfants ton origine antique, et ces fers que brisa ton effort héroïque attestent la vigueur de ta maternité, où tu n'es pas pour l'homme, il n'est pas de patrie, et dressant à ta voix, son échine meurtrie, même l'esclave ne naît pour te conquérir, cela seul pour tes fils sont les mâles ouvrages, et à la paix des tyrans préfèrent les orages, ceux dont la devise est vivre libre ou mourir. Alors il y a, donc c'était un poème de Jeanne de Roy, et puis il y a vers la fin de cet ouvrage, un paragraphe qui s'intitule « L'immerge le roi dans les manuels scolaires et les ouvrages destinés à l'éducation ». Alors, cet ouvrage reprend un article que j'avais fait pour la Chape en 2007, et qui s'intitulait « Eugène le roi dans les manuels scolaires et ouvrages destinés à l'éducation ». Alors, ben, je suis très, très heureux de me retrouver dans ce livre important et très intéressant sur la vie d'Eugène le roi. Alors, je vous laisse découvrir tout cela, et je vous dis à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.